simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est Drégor. Chaque semaine, sur l'école des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, à Local, à Saint-Giron. Et bien évidemment, Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Drégor, une parole anarchiste communiste. Bonsoir, et bien ce soir, on a repris une émission de Fréquence Paris Pluriel, l'actualité des luttes. Concernant le chômage, les nouvelles dispositions concernant les demandeurs d'emploi, c'est comme ça qu'il faut les nommer. Voilà, je crois que c'est technique, mais c'est vachement important puisque il y a quand même, ça concerne quelques millions de personnes en France, hein, même peut-être plus. Enfin bon, voilà. Allez, on écoute et puis sachez quand même que le 30 novembre, c'est-à-dire samedi prochain, il y a des rendez-vous dans un certain nombre de villes, dont Paris, où il y a les chômeurs qui doivent, les demandeurs d'emploi qui doivent se mobiliser contre ces nouvelles dispositions.
Alors, le thème du jour, ça va être l'assurance chômage, puisque, comme vous le savez sans doute, le 1er novembre ont été publiés les décrets qui vont mettre en place en musique, on va dire, la réforme de l'assurance chômage. Puis on va en parler avec notre invité, mais avec qui je vais laisser le soin de se présenter.
Oui, bonjour. Donc, je m'appelle François. Je suis militant à la FSU Pôle emploi, syndicat donc, qui s'appelle plus précisément le SNU Pôle emploi FSU. Voilà.
SNU, c'est
Syndicat National Unitaire.
Voilà. Parce qu'on aime bien, nous, un peu les sigles, les découper un petit peu pour savoir ce que ça veut dire.
Mais en fait, Syndicat National Unitaire, c'est une récurrence dans les différents syndicats nationaux de la FSU.
D'accord. Hein,
le SNES, par exemple, c'est Syndicat National Enseignement.
Voilà, nous, on t'avait reçu il y a quelques mois. On avait déjà parlé de ce thème-là, mais il nous semblait quand même assez important de revenir sur ce thème parce que c'est quand même un thème récurrent, comme va être les retraites aussi. Donc, on voit que le gouvernement met la surmultipliée puisqu'il faut réformer le pays. Hein. C'est vrai que le pays n'a jamais été réformé. Et puis, on va un peu planter le décor puisque au total, donc c'est 1,2 million de personnes sur 2,6 millions de chômeurs indemnisés avec une allocation médiane qui plafonne à 950 euros. Qui auront donc à faire à l'effet de la réforme. Donc c'est l'UNEDIC, donc l'organisme paritaire gestionnaire de l'assurance chômage, qui le dit lui-même. Moins de demandeurs d'emploi ouvriront un droit pour certains allocataires. La durée de droit sera plus courte. L'allocation journalière sera plus faible pour les personnes ayant travaillé de manière discontinue. Donc voilà un peu pour planter le décor. Alors donc, cette réforme, elle a été discutée pendant cette année 2019. Aujourd'hui, on arrive, depuis le 1er novembre, au décret. Voilà un peu pour planter le décor. Comment déjà peut-être toi, tu vois cette réforme de l'assurance chômage? Comment toi, tu la perçois?
Oui, ben, c'est vrai, Joël, quand tu parlais d'actualité de l'assurance chômage... C'est vrai que là, on est face quand même à un véritable bouleversement à plusieurs niveaux. Les nouvelles règles sont quand même très violentes. C'est-à-dire que depuis quand même pas mal d'années, hein, depuis les années 90, on réforme. De nouvelles conventions tentent de minimiser toujours un peu plus les droits des chômeurs. Mais là, fidèle à la logique incarnée par la présidence Macron. C'est vrai qu'on est passé à un niveau d'accélération des réformes tout à fait saisissant. Et là, par exemple, chose intéressante, il n'y a pas de nouvelle convention. Alors, on parle de la nouvelle convention parce qu'on parle des nouvelles règles, mais par exemple, les professionnels de l'indemnisation précisent bien que la convention, la dernière convention existante, c'est la convention de 2017. Puisque c'était une convention qui avait été négociée par ce qu'on appelle les partenaires sociaux, hein, à savoir les organisations syndicales et les organisations patronales. Et là, pas du tout. On est toujours sur la convention de 2017 avec un décret, hein, donc une ingérence de l'État dans le dialogue social qui fixe de nouvelles règles. Donc là, ça relève... Est-ce que j'espère qu'on va... Prenons le temps d'en parler un petit peu parce que c'est important.
C'est important.
Là, effectivement, ça aboutit une reprise en main, enfin pas une reprise en main, une mise sous tutelle de l'assurance chômage par l'État. Hein, c'est-à-dire que bon, on peut refaire un peu d'histoire sans aller trop loin, mais en 58, quand l'assurance chômage est créée, elle est censée être créée sur le modèle de démocratie sociale de la sécurité sociale. FO voulant doubler la CGT, l'assurance chômage ne relèvera pas de la sécurité sociale, mais elle est quand même basée sur le même système, à savoir que on cotise, c'est-à-dire qu'on prélève sur la valeur pour permettre un système de solidarité pour arracher le travailleur de l'arbitraire du chômage. Progressivement, le patronat va reprendre la main un petit peu sur tout ça. Et de nouvelles conventions avec le chômage de masse, avec le libéralisme victorieux à partir des années 80, vont réduire progressivement ces conventions. Et quand Macron donc faisait sa campagne, quand Emmanuel Macron faisait sa campagne, il promettait il promettait une assurance chômage universelle. Garantie par l'État. Bon, en fait, il promettait de détruire les conquêtes sociales en mettant sous tutelle cette structure de solidarité. Hein. L'universalité, au final, c'est un régime d'assistance et la garantie de l'État, c'est au final la destruction de la démocratie sociale, donc indépendante de l'État, en remplaçant, par exemple, les cotisations sociales par l'impôt. Une fois qu'il a remplacé les cotisations sociales par l'impôt, eh bien, ce n'était plus les travailleurs qui finançaient leur caisse de solidarité, c'était l'État. Et donc, l'État a réuni ensuite les partenaires sociaux en disant « négocier quelque chose, mais avec de nouveaux impératifs, comme par exemple d'indemniser les démissionnaires et les indépendants, comme par exemple de baisser les dépenses, hein, puisque c'est moi qui paye, c'est moi l'État maintenant qui paye, ce ne sont plus les travailleurs, donc moi, j'impose une lettre de cadrage ». Un cadrage financier. Le cadrage financier étant impossible à réaliser par les partenaires sociaux, eh bien l'État a dit « je mets fin aux négociations et je vais régler le problème par décret hein. ». Donc là, ce décret, c'est vraiment l'aboutissement d'une destruction en règle de toutes les règles qui régissaient la caisse de solidarité des travailleurs pour les arracher à l'arbitraire du travail. Et donc, on se retrouve avec un décret publié en septembre dernier qui complète, on va dire, la convention 2017, mais qui au final l'annule quasiment, puisque toutes les règles ont été modifiées. Voilà, pour la petite histoire, d'où vient ce décret. Hein, c'est pas simplement la volonté d'arbitrer, comme l'avait fait croire Emmanuel Macron. Hein, il n'a rien arbitré du tout. Au final, il s'est substitué aux partenaires sociaux pour imposer des règles extrêmement régressives et extrêmement violentes à l'égard des chômeurs.
Et la ministre qui en rajoute une couche, puisque en juin dernier, elle leur dit ceci. Si on ne fait pas d'économie dans les 10 ans à venir, on n'aura plus de quoi indemniser les chômeurs. Donc voilà ce qu'elle disait en juin dernier, la ministre Pénicaud, qui est assez brouillonne d'ailleurs dans ce qu'elle dit, hein, assez souvent.
Oui. Alors ça qui est intéressant, c'est que précisément, il y a le sketch, on va dire, de déficit. Là, depuis quelques années, de convention en convention, on avait quand même gardé des droits aux demandeurs d'emploi. Mais le NEDIC était à l'équilibre, hein, c'est-à-dire que globalement, on avait donc 35 milliards de dettes cumulées, c'est vrai. Par ailleurs, le budget à l'année, alors les chiffres paraissent identiques, mais on parle de choses différentes. Les chiffres, le budget à l'année, c'était 35 milliards de dépenses avec des recettes, donc basées sur les cotisations, hein, de 35 milliards. Il y avait simplement chaque année 3,5 milliards de déficit. C'était le financement de Pôle emploi, puisque l'État a abandonné le financement du service public de l'emploi pour le déléguer à l'UNEDIC. UNEDIC qui en profite à chaque fois dans ses comptes pour le mettre en déficit, puisque personne n'en veut au final. Mmh. Hein, l'État veut se débarrasser de ça, l'UNEDIC estime que c'est pas ça relève pas de son ressort. Et donc au final, les comptes étaient à l'équilibre. Mais on a organisé le déficit en imposant donc de restructurer la dette cumulée et en imposant d'élargir les bénéficiaires. L'élargissement des bénéficiaires étant encore une fois une fausse excuse, mais quelque chose qui a fonctionné pour justifier qu'il fallait restructurer le financement de l'assurance chômage. Donc non, il n'y avait pas péril dans la demeure. En termes de budget, en termes de financement, il n'y avait pas du tout péril dans la demeure. Et puis, moi, souvent, quand on est interrogé là-dessus, c'est-à-dire que là, par exemple, Pôle emploi, c'est 5 milliards. Bon, on fait des économies sur tout. Bientôt, c'est la Sécu qui va y passer. Hein, là, on nous parle des retraites. Bon, il faut quand même voir, il faut toujours avoir en tête certains chiffres. Hein, là, grâce au gouvernement socialiste de Hérault et de Valls, on a 40 milliards d'exonérations sociales et fiscales annuelles. Mmh. Hein, on se souvient à l'époque de ces différentes réformes. On raconte des chiffres qui vont toujours un peu dans tous les sens. Soit très clair, c'est 40 milliards d'exonérations sociales et fiscales par an. Bon, si on cumule toutes les niches, toutes les exonérations, hein, c'est globalement 100 milliards annuels d'exonérations sociales et fiscales auprès des entreprises et des grandes fortunes. Hein. Mmh. Sachant que le budget de l'État est globalement chaque année de 400 milliards. Donc on a déjà un quart des finances publiques hein, qui partent dans la poche des plus grandes fortunes. Si derrière, on rajoute à ça les intérêts de la dette d'État, qui se lèvent environ à 100 milliards aussi, on prend la mesure hein, de ce que peut être le vrai détournement des revenus publics vers les fonds privés.
Intéressant, hein, parce que c'est vrai que ça, on n'en parle pas beaucoup en fait. Et puis on a toujours le patronat qui couine parce que ça ne suffit pas, il faut encore baisser les charges. Que mon pauvre monsieur, on paye trop de charges, vous comprenez, c'est quand même difficile la vie d'un patron. Hein.
C'est terrible.
C'est terrible. Hein.
C'est...
Ouais. Mais c'est pas nouveau puisque ça fait des décennies que les entreprises ont des cadeaux fiscaux quand même.
Disons qu'il y a une belle accélération depuis le début des années 2000 et la plus belle accélération, enfin une nette accélération s'est faite donc encore une fois avec Hérault et Valls et c'est un ancien ministre socialiste, Emmanuel Macron, qui finalise un peu le travail.
Il continue le taf quoi.
Donc là effectivement les restructurations en tout cas sont en train d'aboutir. Pour reconnaître quand même cette efficacité prodigieuse à Emmanuel Macron, il a réussi à piétiner le droit du travail, il est en train de piétiner les conquêtes sociales concernant la retraite et l'assurance chômage, et on sait très bien que la sécurité sociale est en ligne de mire. Donc voilà, là en tout cas on aboutit à quelque chose.
On va rentrer un petit peu dans quelques points, pas quelques, j'allais dire quelques détails, mais qui n'en sont pas parce que c'est quand même assez assez important. Et donc voilà, donc 1er novembre mise en place de cette réforme. Alors déjà commençons peut-être par le commencement puisque ça concerne aussi pas mal de gens. C'est la durée de travail minimale. Alors c'est toujours assez problématique puisque on nous dit que l'exécutif augmente la durée minimale de travail nécessaire pour toucher le chômage. La période exigée passe de 4 mois de travail sur 28 mois à 6 mois de travail sur 24 mois. Alors
effectivement, donc c'est vrai qu'il y a au moins 5 éléments fondamentaux à analyser dans ce décret, dans ces nouvelles règles. Donc il y a la durée d'affiliation minimale. Ensuite, on parlera des rechargements des droits,
oui,
de l'intensité du travail, du cumul et ensuite de la dégressivité. Mais c'est vrai que ce premier élément, à savoir rallonger la période minimale d'affiliation, c'est quand même un coup de génie. C'est-à-dire que l'objectif quand même, c'est de faire baisser le nombre de chômeurs. Et effectivement, en passant de 4 mois à 6 mois minimal, vous mettez sur la touche des centaines de milliers de personnes qui auraient pu bénéficier du chômage avant et qui ne pourront plus bénéficier. C'est quand même très malin, je veux dire.
Ah ouais,
là, on va avoir une baisse au moins donc, de 300 000 chômeurs, sachant que ces gens-là ne pourront plus s'inscrire au chômage.
On trafique le thermomètre un peu, quoi.
Ah bah c'est... Voilà, c'est Le jour où on supprimera Pôle emploi et l'UNEDIC, peut-être qu'on pourra constater un taux de 0% de chômeurs.
Je fais une petite incise sur les chiffres du chômage. En fait, on ne publie que la première catégorie, puisqu'il y a plusieurs catégories de gens qui sont à Pôle emploi. Mais on ne publie que la catégorie A, je crois.
Tout à fait, la catégorie A. Il y a 5 catégories. Et alors la catégorie A, c'est ceux qui sont immédiatement disponibles, qui recherchent un emploi et qui n'en ont pas du tout. Et en fait, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que la catégorie B et C, c'est les gens qui recherchent un emploi parce qu'ils enchaînent quelques heures dans la semaine, quelques jours dans le mois. Donc, c'est des gens qui sont en situation de précarité, qui sont inscrits au chômage, qui recherchent un emploi. Mais effectivement, le gouvernement va les prendre en considération quand ça les arrange. Et puis après, la catégorie D et E, qui sont des gens qui sont donc inscrits à Pôle emploi, qui recherchent un emploi, qui sont dans une situation de précarité, mais qui vont être en formation, qui vont être indisponibles, qui vont être en arrêt maladie. Donc, si on prend les catégories A, B, C, qui sont vraiment donc les gens à la recherche d'un emploi, au chômage, même s'ils cumulent un peu d'emplois précaires, puisque c'est bien ça la situation, c'est le développement structurel, systémique, de l'emploi précaire. Donc, on est à 5,5 millions de chômeurs. Et si on rajoute les catégories D et E, donc les gens inscrits, les travailleurs en précarité inscrits à Pôle emploi, on est à 6 millions. Alors, 6 millions, si vous faites le calcul sur le nombre de populations actives, qui est aux alentours de 28 millions, vous arrivez à un quart de la population française inscrit à Pôle emploi. Un quart de la population française. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, là, effectivement, donc on était sur le premier point, mais on peut en arriver tout de suite aux différentes déclarations de Muriel Pénicaud. C'est-à-dire que Muriel Pénicaud n'arrête pas de justifier cette réforme sous prétexte que les chiffres du chômage baissent. On l'entend partout.
Oui.
Et alors, c'est très intéressant, puisque à chaque fois...
C'est presque un mantra, c'est un truc qui revient...
Ah non, puis les chiffres du chômage baissent, donc il faut réduire les droits. C'est tout à fait formidable. Sauf que moi, je vous invite. Alors déjà, encore une fois, il faut pouvoir être objectif et vu la violence de ces réformes, l'objectivité est facile à obtenir. Sur l'impact de la réforme, il y a l'étude d'impact de l'UNEDIC, où vous avez tout chiffré de manière extrêmement précise. Sur les chiffres du chômage, vous avez la DARES. La direction d'animation de la recherche et des études statistiques. C'est la petite cousine de l'INSEE, on va dire.
D'accord.
Ou la grande cousine. Il s'arrange. Mais voilà, donc on a les chiffres du chômage. Donc là, moi, je les ai là. Et alors, c'est très intéressant. C'est vrai que, par exemple, d'un mois sur l'autre, d'un trimestre sur l'autre, on peut voir quelques dizaines de milliers, voire centaines de milliers. Mais si on est là. Moi, je vous prends, par exemple, les chiffres de 2015, catégorie ABC. On est à 5 700 000. Ok, 5 700 000, on est bon. 2015, c'est le chiffre de la DARES. Maintenant, je prends les chiffres de 2019. On est à 5 900 000. Donc, moi, j'ai fait L option maths, donc j'ai quelques notions, mais je ne pense pas qu'il faille faire une école d'ingénieur pour voir que 5 700 000 par rapport à 5 900 000, les chiffres augmentent.
Ouais, bah oui.
Donc voilà, moi j'aimerais bien, si jamais Muriel Pénicaud peut venir à l'antenne à l'occasion, qu'on puisse effectivement échanger sur ce troublant malentendu mathématique. Donc oui, alors effectivement, d'un mois sur l'autre, on peut voir... Oui, parce que regardez, il y a effectivement... Non, je continue à regarder, c'est-à-dire que ça ne cesse d'augmenter.
D'accord.
Là, en 2016, on était à 5 700 000. On est passé en 2018 à 5 900 000.
Donc en fait,
écoutez, non, au premier trimestre, au quatrième trimestre 2017, on était à 5 936 000. Et là, au premier trimestre 2019, on est à 5 914 000.
D'accord.
C'est donc ça qui justifie qu'on piétine l'ensemble des droits des chômeurs. Je suis bête, effectivement. Soyez un peu plus rigoureux la prochaine fois.
Alors,
donc c'est hallucinant.
Justement, allons-y sur le rechargement, puisque c'est lié aussi, du coup, aux histoires de rechargement. Quand même, ce qui est dit, c'est que pour bénéficier du système de droits rechargeables, cette durée est portée de 6 mois, alors qu'elle était d'un mois auparavant. Pourquoi ? Pourquoi, du coup, il y a ce changement du...
Alors, pourquoi vous vous en doutez ? vous doutez des raisons profondes de la chose. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec le rechargement,
Tu peux juste rappeler ce que c'est justement.
Voilà, le rechargement, c'est-à-dire que normalement, donc, on cotise sur une durée d'affiliation. Par exemple, j'ai travaillé, mais on va en reparler un peu plus tard, mais oui. Prenons un exemple simple. J'ai travaillé pendant 2 ans, ou je travaille pendant 10 ans. Je suis au chômage, je vais pouvoir toucher des allocations calculées sur mon salaire journalier de référence pendant 2 ans. Hein. Au bout de 2 ans, mes droits s'arrêtent. Alors, je peux toujours, si j'ai travaillé pendant cette période-là, recalculer de nouveaux droits. Mais il faudra avoir travaillé suffisamment longtemps concernant la durée d'affiliation. Là, avec le rechargement des droits, si vous pouviez retravailler environ 1 mois, le nombre d'heures compris dans 1 mois, pendant votre chômage, vous pouvez recharger des droits et relancer votre allocation. C'est en 20 ans à peu près la seule règle un peu cohérente et un peu positive qui avait été promue par les différentes conventions. C'était vraiment... Et on se débarrasse complètement de cette règle puisque, donc suivez-moi bien, on avait besoin de 4 mois pour ouvrir des droits avant, maintenant on a besoin de 6 mois pour ouvrir des droits. On pouvait recharger ses droits avec 1 mois de travail, mais maintenant, il faudra retravailler 6 mois pour pouvoir recharger ses droits. Hein, c'est-à-dire qu'il faut travailler 6 mois pour pouvoir ouvrir des droits, et si jamais vous êtes dans des droits et que vous les rechargez, il faudra travailler 6 mois. Donc voilà, c'est intéressant parce qu'en plus, il y a vraiment ce sentiment d'être pris pour des andouilles. C'est-à-dire qu'on maintient le rechargement, mais on l'annule, mais clairement dans les faits, hein, puisqu'on l'aligne sur la durée minimale d'affiliation. Donc voilà, on annule la seule bonne proposition qui a été faite ces 20 dernières années concernant l'assurance chômage.
Alors, il y a aussi l'histoire des démissions, puisque aujourd'hui, on a l'impression que actuellement l'État va faciliter les gens pour pouvoir changer d'emploi. Et puis, quand on lit un petit peu certaines choses, c'est qu'il y a cette possibilité de démissionner, mais il y a une petite astuce, donc c'est la loi Avenir Professionnel qui prévoit l'ouverture de l'indemnisation aux salariés démissionnaires, mais sous certaines conditions. Alors donc, pour toucher cette allocation, les salariés devront quand même être aptes au travail et rechercher un emploi, mais doivent être aussi et surtout avoir un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation ou un projet de création de reprise d'entreprise. Mais plus loin, il est dit que donc le caractère réel et sérieux doit être attesté avec un espèce de contrôle d'une commission paritaire interprofessionnelle. Donc c'est un nouvel organe qui s'est créé dans chaque région. Et la dernière chose quand même, c'est que le salarié doit avoir travaillé dans la même entreprise pendant les 5 dernières années. Oui. Ça, c'est dur là, hein, parce qu'on nous présente quand même ce truc-là comme vous allez pouvoir changer d'entreprise, comprenez, ça va être facile, vous allez pouvoir démissionner.
Tout simplement, vous allez pouvoir avoir des droits en démissionnant.
Voilà.
Parce qu'actuellement, quand on démissionne, on n'a pas de droit au chômage. C'est pour ça que tout le monde s'est mis à la rupture conventionnelle ou que les gens faisaient des abandons de poste auparavant. Donc, faut pas, c'est aussi pour ça que c'est posé positivement. Parce que c'est comme l'ouverture de nouveaux droits qui n'avaient pas existé auparavant, alors que. Comme tu le décris assez bien, en réalité, c'est très restrictif.
Alors, c'est très restrictif, mais alors là, pour le coup, je vais donner une analyse qui n'applique pas forcément ni le collectif dans lequel j'évolue, ni mon organisation syndicale. Mais
on a le droit de dire des choses personnelles aussi. Hein.
Mais non, mais ce qui est très intéressant, parce qu'effectivement, on aborde souvent l'assurance chômage comme devant quand même s'élargir au maximum à l'ensemble des travailleurs qui subissent des conditions de travail dont ils voudraient s'émanciper. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'à la base, l'assurance chômage, c'est dire si jamais vous êtes à la rue, donc licencié, vous aurez droit à bénéficier de la solidarité de ceux qui travaillent. Et l'idée, c'est que ça a accompagné quand même des mouvements collectifs très forts, hein, des luttes pour l'augmentation des salaires, des luttes pour de nouvelles conditions de travail, hein, des luttes pour la défense de l'emploi aussi. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que admettre les démissionnaires, c'est admettre aussi qu'on change de paradigme, c'est admettre que les luttes collectives pour la défense de l'emploi sont totalement caduques et que maintenant, en fait, on va pouvoir faciliter voire décomplexer complètement l'idée de démission. Alors que la démission, à la base, rentrer dans un cadre... Enfin, normalement, on ne démissionne pas de son travail. On se bat contre son patron collectivement pour obtenir de nouvelles conditions et de meilleures conditions. Et c'est vrai que récemment, il y avait la rupture conventionnelle qui était encore le moyen pour le patron de plus facilement mettre les gens à la porte.
Oui.
Et là, avec le fait de pouvoir indemniser les démissionnaires, c'est un bel appel d'air pour les patrons. Hein. C'est une bouffée d'air frais, on va dire, pour les patrons. Les patrons, maintenant, pourront dire, écoute, on va pas se fâcher, on s'entend pas, démissionne, hein, puisque tu pourras toucher un peu de pognon. Moi, je te jure, je dirais à l'UNEDIC que je soutiens ton projet professionnel et qui fait... Donc, vous savez, c'est ce terme souvent qu'on utilise depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, mais sur socialisation des pertes et privatisation des profits. Ben voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, la démission, qui relève quand même de la responsabilité du patron, c'est ça à la base, hein, l'idée de logique syndicale, de solidarité, de lutte collective. Et ben donc, la démission qui relève... la démission maintenant est libéralisée, légalisée. Et ça, c'est comme un petit peu l'autre point qui avait été ajouté sur les indépendants. Hein, maintenant, effectivement, qu'on pousse à réorganiser l'idée du salariat. Hein. On parle beaucoup de l'auto-entrepreneur, mais l'auto-entrepreneuriat, par exemple, c'est non pas forcément le passage vers un statut indépendant, mais dans beaucoup de cas, c'est en fait le salariat d'avant le droit du travail. Hein, puisque pour beaucoup de patrons, bah, on embauche, qu'on continue à embaucher les mêmes salariés, mais on les embauche sous un statut d'auto-entrepreneur. Hein, pour les patrons ou pour le public aussi. Hein, le public fait beaucoup ça, hein, de plus en plus, dans pas mal d'institutions. Et donc là aussi, le fait de pouvoir indemniser les indépendants, c'est aussi l'idée de dire, bon, bah, en fait, maintenant, l'assurance chômage, c'est plus une caisse de solidarité. Hein, ça va être une structure d'assistance sous tutelle de l'État. Donc c'est assez dangereux aussi, enfin, dans l'idée.
Ben, on va justement faire une pause musicale et puis on va peut-être, dans cette pause musicale, nous inciter à traverser les rues pour voir s'il y a du boulot de l'autre côté.
Vous êtes inscrit à Pôle emploi ?
Ouais. Ouais, pour l'emploi, il y a le chapeau.
Et vous
Non. Il n'y a rien. Et j'ai beau envoyer des CV, lettres de motivation, ça ne fait rien.
Mais vous voulez travailler dans quel secteur ?
De base, je suis horticole et j'ai envoyé partout dans les mairies, plein de portes.
Mais après, il y a des tas de métiers. C'est aussi. Vous voyez, maintenant, hôtel, café, restaurant, sont fermés. Je traverse la rue, je vous en trouve. Ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler.
Tiens, tu fais quoi, toi ? Rien ? Viens par là, viens. Je vais te trouver un emploi dans quoi ? Tu verras bien. Suffit de traverser la rue, gamin, donne-moi la main. Des bars qui cherchent de la main d'œuvre, crois-moi, y en a plein. Reste pas la main dans la poche,
je crois qu'on dit les mains.
Ouais, fais pas le malin en restant là, t'iras pas loin. Avec ton faciès maghrébin, t'as l'air d'Aladin. C'est pas gagné, faut que tu donnes de toi-même, fais pas le radin. Fais l'effort d'aller voir les bars et les restos. Vont bien avoir quelque chose à te faire faire, tu vas trouver presto. Monde appartient au lefto, à ceux qui se bougent et se mettent tôt. Travaille pas ceux qui restent au même poison, le point éternel est au fond. Tu sors de ta banlieue, que tu ailles dans un bon lieu. Au lieu de compter sur bon Dieu comme tous les pauvres. Écoute, ça faut que tu partes, mais pas sans lieu. En face et ici en mieux. Tu trouveras du boulot si tu te bouges et te sauves.
Suffit que tu traverses la rue. Je te dis, t'as des problèmes dans la rue. Que c'est peut-être de la vue.
Traverse la rue, traverse la rue.
Tu fous, tu traverses le printemps. Tu m'en retrouveras des emplois. Tu suis, qu'est-ce que t'aurais fait sans moi?
Hey yo, je vois que tu kiffes mon costard. Tu kiffes mais t'es un tocard. Faut du bif pour ça, faut pas roupiller ni se lever trop tard. Faut travailler pour pouvoir se payer, genre de choses car t'as l'air de croire faudrait être mieux payé. Mais c'est des beaux bars de part, faut se diversifier. Pour tout job faut faire signer, pas se fier à ce que dit le syndicat. Je dis ça car t'as l'air tifié. Faut les relations taf pacifier, même si tout est opacifié par le boss. Il faut que tu bosses quoi que soit ce pourquoi t'es qualifié. Faut t'activer, t'impliquer quoi que soit l'idée, la tâche visée au départ. Si c'est pas le taf qui t'est demandé, il ne faut pas paniquer. Faut pas te formaliser, ne pas trop te spécialiser. Le patron peut s'aviser, changer pour rationaliser. Et n'oublie pas de t'actualiser au pôle emploi pour qu'on t'envoie des offres standardisées. Sans rapport avec ce qui toi te disait. Si t'as pris les cours pour analyser ce qui est imposé aux racisés, sois cela dit prêt à être pris pour des ratisés.
Suffit que tu traverses la rue. Je te dis que t'as des problèmes dans la rue. Tu dis que c'est peut-être de la rue.
Traverse la rue, traverse la rue.
Traverse le printemps, tu m'en retrouveras des emplois. Tu suis, qu'est-ce que t'aurais fait sans moi?
Traverse la rue, j'en trouve.
enfin un peu d'honneur. Si j'étais chômeur dans un cas comme le vôtre, sachez que vos pleurs, je les aurais en horreur. L'enfo, avant que je me vaute, je serai l'auteur de mon succès, de ma hauteur. Au lieu de l'attendre de l'autre, faites pas nos cœurs, êtes vos propres saboteurs. Tout est de votre faute, je serai ferme, vous êtes des merdes. Chez vous, le problème est interne. Je self-made man, je m'aide, mène mes projets à terme.
C'est notre projet.
Faire de vous des subalternes et grand gros j'ai le sentiment que vous êtes des. Non, j'ai pas le terme. À peine je traverse et je te trouve une place de serveur. Quoi, t'es horticulteur, parfait, ça devrait pas te faire peur. Va voir vite dans le bâtiment, le restaurant, le reste, oriente-toi là où y'a de l'emploi, plutôt que planter là le secteur. J'aiderai rien aux feignants, ceux qui se complaisent dans l'erreur, ceux qui devraient se prendre en main et se vantager d'être le meilleur, ceux qui devraient prendre le train en marche, mais marche sur le quai, pleure dans une gare et de vous de se réussir sans doute ces gens qui m'écœurent.
Suffit que tu traverses la rue, je te dis que t'as des problèmes dans la rue, tu dis que c'est peut-être de la vue.
Traverse la rue.
Traverse, reprends-toi. Tu dis, on retrouvera des emplois. Tu suis, qu'est-ce que t'aurais fait sans moi?
Traverse la rue, tu t'en trouves.
Tu dis que tu traverses la rue. Je te dis que t'as des problèmes dans la rue. Tu dis que c'est peut-être de ta vue.
Traverse la rue.
Tu dis que tu traverses, reprends-toi. Tu dis, on retrouvera des emplois. Tu suis, qu'est-ce que t'aurais fait sans moi?
Et aujourd'hui, dans cette émission, on parle de l'assurance chômage avec François, qui est au SNU FSU Pôle emploi. Ouf, j'ai répété. Hein.
Ouf.
Donc, on va poursuivre justement sur ce qu'on parlait avant la pause musicale. La question de la dégressivité.
Alors, pas enfin, je propose d'aborder... Au 1er novembre, donc, on en parlait tout à l'heure, on a donc l'allongement de la période minimale d'affiliation qui passe de 4 mois à 6 mois, donc, qui permet donc de virer 300 000 chômeurs des chiffres du chômage. Hein, c'est une très bonne manière, assez brillante manière de réduire le nombre de chômeurs. Et après, donc, on avait parlé de l'annulation du rechargement,
oui. Hein,
puisqu'on a aligné le rechargement sur la durée d'affiliation minimale. Hein, ce qui donc relève de l'annulation pure et simple. Du rechargement. Au 1er avril, on va rentrer dans de nouvelles modalités de calcul de l'indemnité chômage. Déjà, donc grosse violence de ce décret, c'est le calcul de l'allocation en fonction de l'intensité du travail. Alors, prenons des exemples. On va prendre un exemple. Si je travaillais par exemple 6 mois sur les 2 dernières années, donc par exemple 2 mois par-ci, donc on allait calculer mon salaire de référence sur les 6 derniers mois, okay, et j'allais pouvoir toucher en fonction globalement, puisque l'allocation est calculée sur 57% du brut, mais que les retenues sociales sont moindres, en fonction de votre rémunération, vous pouviez espérer entre 60 et 75% de votre ancien salaire net. OK ? Bon. Donc, si j'ai travaillé 2 mois par-ci, 2 mois par-là, les 2 dernières années, on va me calculer, mais que j'ai travaillé 6 mois en tout sur les 2 dernières années, on va calculer mon allocation, on va dire, d'une moyenne de 65-70% de mon ancien salaire sur les 6 mois où j'ai travaillé. Ce qui paraît cohérent. Hein. Et là, effectivement, avec les nouvelles règles, c'est plus du tout comme ça que ça fonctionne. On va lisser votre allocation, enfin, on va lisser votre salaire journalier de référence sur l'ensemble des mois de la période pris en compte. Donc avant, on remenait... un peu compliqué, mais on remontait sur les 24 derniers mois pour voir combien de temps vous aviez travaillé. On prenait les 12 derniers mois pour savoir quel salaire on allait calculer, hein, quelle allocation on allait calculer. Puisque, a priori, on part du principe qu'on a toujours une augmentation tendancielle à la hausse de son revenu. Bon, là, on prenait la dernière année. Hein. Et donc, on vous calculait sur le nombre de mois pendant lesquels vous aviez travaillé. Maintenant, si vous avez travaillé 2 mois il y a 2 ans et 4 mois 18 mois plus tard, hein, on va vous calculer une allocation où on prendra ces 6 mois lissés sur les 24 mois. Ce qui entraîne un effondrement immédiat, hein, de votre allocation potentielle. Hein, c'est-à-dire que là, vous n'allez pas toucher 70% de votre ancien salaire, vous allez peut-être pouvoir toucher 30% de votre ancien salaire. Hein, ce qui est totalement ridicule. Alors, Précisément, c'est très intéressant parce que les calculs proposés et vendus par le gouvernement disent oui, mais sur les 24 mois, vous toucherez plus. Hein, vous toucherez pendant 24 mois, c'est formidable. Oui, vous toucherez une misère sur 24 mois. Hein, il vaut mieux toucher un revenu de remplacement conséquent, enfin qui vous permette en tout cas d'exister pendant 6 mois, plutôt que de toucher une misère pendant 24 mois. Donc,
à savoir que potentiellement, si on touche pas le même revenu, ça va vouloir dire qu'en fait, on va chercher à accumuler avec d'autres emplois pendant ces 24 mois. C'est-à-dire que si l'allocation elle est plus basse, eh ben peut-être qu'on va plus chercher à avoir des petits salariats en fait à côté. C'est tous ces petits contrats précaires ou auto-entrepreneurs ou d'auto-entrepreneurs qui vont nous permettre, ben peut-être de, au lieu d'être à 400 euros pendant 24 mois, d'être à 800. Et bah, tout ce travail-là et tout ce temps-là qu'on va mettre à trouver des petits emplois, etc., bah, c'est un temps en moins pour trouver un emploi qui conviendrait peut-être mieux et auquel on serait mieux payé. C'est-à-dire que c'est un cercle vicieux, en fait, aussi, quoi.
Alors, on va voir que les cercles vicieux s'enchaînent sans cesse avec ce nouveau décret. Mais déjà, et c'est là que le vice du gouvernement est sans limite. C'est-à-dire qu'avant, on estimait qu'effectivement, le travail devait payer. Mmh. Mais, vous savez que c'est un argument qui est souvent repris par le gouvernement actuel, mais qui est complètement inversé. Effectivement, cette phrase ne veut pas dire grand-chose de toute façon. Mais avant, quand on dit que le travail devait payer, ça veut dire que j'avais une allocation, donc l'allocation qui ne dépassait jamais, on l'a dit tout à l'heure, 75% au maximum, hein, mais qui était souvent sur une moyenne de 65-70% du net, je pouvais cumuler avec un travail. On n'allait pas vous empêcher de travailler. Hein. Et donc là, effectivement, on estimait que vous pouviez cumuler, alors sur un temps limité, hein, c'était limité à 15 mois quand même, mais on prenait de votre allocation, on prenait de vos revenus, on enlevait, on soustrayait de votre allocation environ la moitié de votre revenu complémentaire. Mmh. Hein. Donc là, ça pouvait effectivement potentiellement dépasser la limite des 70%. Mais on estimait qu'on n'allait pas vous sanctionner pour avoir un travail en plus de vos allocations. Eh bien là, oui, puisque le travail doit payer selon le gouvernement, mais dans une autre acceptation. Maintenant, on va limiter le cumul d'un revenu complémentaire. Hein, donc, vous ne toucherez plus, comme avant, la moitié de votre revenu complémentaire, puisqu'on soustraira l'autre moitié de votre allocation. Maintenant, on vous limitera à 75% maximum de votre allocation. Mais ce qui est intéressant, et c'est là que le cercle est vicieux aussi, c'est que vu qu'on vient de le voir, le calcul du salaire journalier de référence s'effondre potentiellement par rapport à son nouveau calcul hein, sur la durée de référence, eh bien, la capacité à pouvoir cumuler s'effondre elle aussi. Mmh. Hein. Donc au final, de plus en plus, par rapport à ce cercle vicieux, travailler de manière complémentaire à un revenu misérable ne sera même plus intéressant. Donc là, il y a vraiment une volonté de sanctionner. Je veux dire, il n'y a rien de cohérent dans cette proposition de décret. Il y a la volonté de dire, maintenant, l'assurance chômage n'est plus une caisse de solidarité. Hein, ça devient potentiellement punitif. Donc, on vous invite à prendre n'importe quel boulot à n'importe quel tarif. Ça, on en parlera hein, par rapport à ces fameuses offres d'emploi non pourvues qui justifieraient pour Muriel Pénicaud qu'on remette les chômeurs au travail.
Oui, parce que tout ce qui ressort là, en fait, au final de ces interventions, c'est de voir un peu, et c'est très honnêtement terrifiant, hein, comment est-ce que à un moment donné, le pôle emploi se met complètement en lien aussi avec les transformations du monde du travail lui-même. C'est-à-dire comment est-ce qu'on sanctionne, mais comment est-ce qu'on précarise l'ensemble et que résultat, ça va pousser tout le monde aussi à accepter d'autres conditions de travail, des conditions de travail moindres, des contrats avec d'aide ou avec moins de droits. Voilà, à proprement parler, et comment en plus, avec même toute cette idée de la démission, etc., les gens vont juste s'y soumettre et vont se dire je vais essayer de tout cumuler, de tout gérer de manière individuelle et d'avoir un quotidien qui me semblera un peu viable entre une mini caisse d'allocation, un emploi un peu pourri et puis peut-être une mini aide de la CAF, mais on sait jamais parce que ça va changer aussi et donc ça veut dire que tout le monde va devoir aussi complètement réorganiser son quotidien.
Alors de toute façon, à mon sens, mais je pense que là pour le coup j'ai mon organisation, mon collectif et pas mal de gens qui partagent cette analyse, vous y compris, tout ça a comme objectif aussi de faire pression sur les salaires et les conditions de travail. Mmh. Hein, faut être lucide. Maintenant l'UNEDIC donc qui devait relever de la démocratie sociale et quand même au service des organisations patronales. Ça avait d'ailleurs été exprimé assez clairement hein, par Nicole Notta dans les années 90, quand la CFDT avait volé la co-gestion de l'UNEDIC à AFO. Hein, on changeait de paradigme, on était sur une logique anglo-saxonne, assurantielle, avec l'activation des dépenses. Hein, c'est le moment, on le rappelle, hein, c'est le moment où avant, on estimait que le chômeur subissait le chômage, hein, donc le travailleur était privé d'emploi par rapport à un système économique injuste, et c'est pour ça qu'on avait créé ces caisses, hein, pour l'arracher à l'arbitraire du patron. À partir des années 90, on a estimé que le chômeur devait quand même montrer un peu de bonne volonté, hein, et qu'il devait donc justifier qu'on puisse activer son allocation chômage. Et ce qui est très intéressant, c'est que depuis les années 90, plus le chômage de masse augmente, et plus le chômeur est considéré responsable de sa situation. Donc là, le paradigme est aberrant, mais en tout cas, il est là, il est présent. Et donc là, on en arrive à un système où effectivement, le chômeur est considéré comme de mauvaise volonté. D'ailleurs, Muriel Pénicaud n'arrête pas de le dire, hein, du travail, il y en a. Je me souviens même d'une intervention sur France Inter où elle disait, globalement, elle disait, on ne serait pas aussi violent si ce n'était pas le cas. Hein, ne nous prenez pas pour des monstres. Et donc, globalement, on l'a vu sur les chiffres, hein, ils n'arrêtent pas d'augmenter. Hein, donc, et donc, de l'emploi, il y en a. Et comme vous disiez tout à l'heure, ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, on parle en permanence des 300 000 offres d'emploi non pourvues. Alors là, récemment, Muriel Pénicaud est montée à 700 000 offres d'emploi non pourvues, qui dit mieux. Voilà, donc ça relève un petit peu, vous savez, comme certaines mesures qu'on vient d'énoncer relevaient d'une soi-disant étude de l'UNEDIC concernant les fraudes oui. de certains chômeurs qui pouvaient toucher visiblement des sommes faramineuses en cumulant des petits boulots. On parle que de gens précaires. Hein, bien. Mais bon, visiblement, c'est eux les vrais privilégiés.
Il y avait des députés qui disaient même qu'ils partaient avec leurs
allocations aux Bahamas. C'était les Bahamas, oui. Et donc, ces fameuses offres d'emploi... L'étude de l'UNEDIC a été démentie depuis. Hein, faut le savoir. Donc, une étude de l'UNEDIC qui justifie la fin du cumul tel qu'on le connaissait avant a été démentie par l'UNEDIC elle-même. Hein. Mais bon, la mesure est restée, bien sûr. Et donc, maintenant, sur les offres d'emploi non pourvues, voilà, soyons très très clairs. Il suffit d'aller faire un tour. Déjà, les offres d'emploi non pourvues, parfois, elles se répètent. Avec la libéralisation du service d'offres, maintenant, déontologiquement, c'est très problématique. On a plein d'offres frauduleuses. Hein et derrière, les conditions de travail proposées par les offres s'effondrent. On a avant tout des offres précaires, en temps partiel. Donc voilà, ce sont ça les vraies offres, hein, avec un moins-disant permanent par rapport à des conditions extrêmement complexes qui mériteraient une juste rémunération, et ce n'est pas le cas. Donc voilà. Il y a une vraie hypocrisie par rapport aux offres d'emploi non pourvues. On sait très bien que c'est pas vrai. On sait très bien que avec 6 millions de personnes inscrites à Pôle emploi, ça ne doit pas relever que des chômeurs, hein, le problème économique en France. Donc voilà, on en est là, quoi.
Alors là, on va parler des bonus-malus. Alors c'est pas automoto, hein, rassurez-vous, mais on a l'impression qu'on est dans une espèce de concession automobile. Donc on parle de bonus-malus, parce que dans les voitures, on utilise beaucoup ça. Alors là, c'est quand même assez particulier puisque le gouvernement compte lutter contre le recours abusif aux contrats précaires et notamment aux CDD et courte durée. Donc, il adopte un système de bonus-malus d'assurance chômage permettant de moduler le montant des cotisations patronales en fonction de la fréquence d'utilisation de ces contrats. Donc, plus loin, ce bonus-malus est établi selon la règle suivante. Plus le nombre de salariés inscrits à Pôle emploi après avoir travaillé dans une entreprise est élevé, plus cette entreprise payera des cotisations patronales à l'assurance chômage. Le temps de contribution est néanmoins déterminé dans la limite d'un plafond et d'un plancher fixé par l'arrêté. Il varie en fonction des secteurs d'activité. C'est assez compliqué quand même, j'ai l'impression, moi, comme j'ai un peu de mal à saisir. Et je pense que les gens qui nous écoutent, c'est peut-être un peu...
En fait, l'idée en soi est formidable. Mais bon, c'est comme toute la terminologie en général du gouvernement. Hein. On nous parle d'universalité, on nous parle d'égalité. Enfin, on nous parle surtout de tout l'inverse, en réalité. Et là, imaginons qu'on taxe les entreprises qui embauchent de manière précaire. Ce serait formidable. J'en demande que ça. Imaginez, on augmente les points de cotisation de toutes les entreprises qui embauchent principalement en CDD, en permittence. Mais là, on renfloue les caisses et de l'assurance chômage et de la sécu. Non, mais ce serait génial. Sauf que, bien entendu, ça n'est pas le cas.
Ça se passe pas comme ça.
Eh non, le bonus-malus. Donc déjà, on rappelle, hein, les conventions, le dialogue social entre les partenaires sociaux avait été de toute façon saboté, puisque les conditions imposées par l'État était impossible à transcrire via une convention. Alors bien entendu, certaines organisations comme la CGT insistaient beaucoup sur la nécessité d'un bonus-malus, mais au final, on se retrouve avec une fausse disposition, hein, sachant que les pénalités donc ne concernent que les entreprises privées, hein, alors que l'État est quand même gros pourvoyeur aussi d'emplois précaires. Il y a que seuls 7 secteurs d'activité sur 38 ont été retenus, hein, et des secteurs comme le BTP ou le médico-social, qui sont quand même là aussi gros pourvoyeurs de contrats courts, ont été laissés de côté, hein. Le malus, il est déjà essentiellement symbolique, hein, il est 0,90%, quelque chose comme ça, et en plus il est reversé aux entreprises du secteur qui, elles, ont été considérées bonnes élèves. Voilà. D'accord. Donc, en fait, ils se refilent le pognon. Les entreprises se refilent le pognon entre elles et rien n'ira dans les caisses. Donc, on voit qu'on est dans l'hypocrisie, la tartufferie la plus totale.
Il y a un tour de passe-passe, quoi, un petit peu dans oui, cette histoire.
Tout à fait.
Non, pas mal. Non, c'est fou.
Puis il y a l'idée selon laquelle, en fait, parce que bon, on aime bien aussi toujours mettre en lien, et c'est vraiment hyper intéressant parce que c'est ce que tu as fait d'ailleurs pendant toute cette heure, le rapport entre la caisse du chômage et le travail, en fait. Simplement parce que effectivement, en fait, c'est pas deux secteurs qui sont dissociés l'un de l'autre. On voit très bien comment est-ce qu'ils marchent l'un avec l'autre. Et là, il y a une véritable idée où on se dit, mais en fait, on va devoir passer nos vies entières, toute la semaine, à ou chercher du boulot, ou être dans les transports en commun pour passer d'un boulot à l'autre, ou à écrire des lettres de motivation, ou à aller en formation en même temps qu'on aura un mi-temps le matin. Faudra qu'on soit en formation l'après-midi pour prouver que véritablement on veut bien travailler. Et là, il y a une régression totale parce qu'à un moment donné, en fait, la question c'était aussi qu'en fait, on voulait pas non plus passer nos vies à travailler. Parce que effectivement, le salariat, c'est pas non plus le truc le plus épanouissant de la Terre, quoi. Donc, il y a cette espèce d'injustice économique de base du système qui a été complètement annulé, hein. Le système économique n'est pas injuste. Le système économique est juste et donc c'est les gens qui font preuve de mauvaise volonté. Et par ailleurs, le travail, en fait, serait la seule destinée de nos vies.
Alors, effectivement, comme disait Margaret Thatcher, il n'y a pas d'alternative. C'est un peu ce qu'on peut aussi entendre, hein, de la part de l'ensemble des gouvernements libéraux, dont Emmanuel Macron. Hein, je dirais, il faut faire avec ce qu'on a. Après, ce qui est intéressant, c'est que il y a une alternative au salariat. C'est le travail indépendant. Donc, c'est l'ubérisation, hein, qui a été longtemps vendue comme une potentielle logique d'émancipation. Pôle emploi s'était beaucoup investi dans la promotion de l'auto-entrepreneuriat quand les décrets avaient été promulgués. Et alors, par rapport à tout ce que vous avez énoncé de logique de contrainte au quotidien, il y a aussi donc l'idée de rendre des comptes. Mmh. Vous avez évoqué les sanctions potentielles, le contrôle social qui s'impose, donc un service public qui se transforme en police de l'emploi au service du patronat et une caisse de solidarité qui se transforme en système à faire pression sur les salaires. Et c'est vrai que tout ça, vu qu'il y a plus, les règles sont de plus en plus problématiques. Parce que si on revient à une des mesures du décret. C'est-à-dire que tout d'un coup, on avait une personne qui pouvait toucher 6 mois d'allocation à 60% de son ancien salaire, et maintenant qui va toucher 30%, mais sur 24 mois. Bon, déjà, ça paraît absurde de trouver ça bien. Mais en plus, on pourrait toujours dire 24 mois, c'est formidable. Oui, mais non. Enfin, 24 mois. Est-ce que vraiment, l'objectif de la réforme, c'est de permettre aux gens de continuer à être les assistés du système, hein, puisque c'est un peu la logique, pendant 24 mois? Tout est fait, effectivement, pour les en sortir le plus rapidement possible. Mais c'est vrai qu'il y a tout un système donc répressif et coercitif qui s'est mis en place progressivement, hein, et qui a trouvé sa formalisation récemment dans le décret du 30 décembre dont on avait parlé, je me souviens, il y a quelques mois, ouais, hein, avec les fameuses peines planchées. Hein, donc si vous ne faisiez pas profil bas, vous aviez donc un mois de suppression et ensuite 2 mois et ensuite 4 mois. Avant, c'était une suspension de vos allocations, puisque c'était quand même un dû, c'était, vous aviez cotisé, c'était une caisse de solidarité. Maintenant, c'est une suppression, hein, parce que c'est l'État qui vous concède. Donc l'État, c'est dans sa manière d'être, hein, il vous tape dessus si vous n'êtes pas content et si vous n'êtes pas soumis. Et derrière, il y avait la fameuse reformulation de l'offre raisonnable d'emploi. On voit bien comme tout ça est quand même très bien architecturé, oui, hein, je veux dire, les choses se tiennent. On peut reconnaître en tout cas cet esprit de cohérence à ce gouvernement. et donc l'offre raisonnable d'emploi. Donc maintenant, on a de moins en moins de droits. Donc on est obligé de retrouver un salaire. Les offres d'emploi sont de plus en plus dégradées. Hein. Donc on peut faire la fine bouche. Heureusement, il y a donc tout un système répressif qui va justifier qu'on puisse vous supprimer vos allocations si vous refusez les offres d'emploi poubelles. Et donc l'offre raisonnable d'emploi, qui existe depuis quelques années mais qui n'avait jamais été mise en place, parce que usine à gaz et puis parce que conscience professionnelle des salariés de Pôle emploi. Et donc maintenant, l'offre raisonnable d'emploi, depuis le décret du 30 décembre, on a supprimé la référence à l'ancien salaire, on a supprimé les limites de temps et de distance, on a tout supprimé quoi. Maintenant, le salaire, c'est en fonction du bassin. Donc voilà, c'est le MEDEF qui définit quoi, hein, en fonction de ce qu'on est prêt à payer aux salariés, on est prêt à l'imposer aux chômeurs. Maintenant, la distance et le temps de trajet va être à la main de Pôle emploi. Et donc ça sous-entend quand même qu'on peut vous imposer n'importe quelle offre. Hein. Et si vous refusez, hein, c'est l'idée de l'offre raisonnable d'emploi, hein, car le gouvernement, le système sait être raisonnable, vu la terminologie employée. Donc si vous refusez deux offres raisonnables d'emploi, eh bien là, pareil, on en arrive au peine plancher, un mois, deux mois, quatre mois.
À peine plancher, ouais, c'est...
Peine plancher, ah, dans une forme de criminalisation du chômage.
Tout à fait.
Déjà avant, ouais. il était victime du système, ensuite il est devenu coupable, ouais. Maintenant c'est carrément criminel.
Alors quand même, la précarité, elle touche beaucoup de monde dans cette société. Elle touche aussi les étudiants et étudiantes. Hier soir, il y avait un rassemblement devant le CROUS à Paris et ailleurs en France, puisque vendredi dernier, il y a un étudiant qui s'est immolé par le feu. Et on entendait aussi réclamer un salaire étudiant, parce qu'aujourd'hui, il faut le rappeler quand même, les étudiants et étudiantes travaillent pour payer leurs études. Comment on en arrive là ? Comment on en arrive à ces situations où aujourd'hui, une grande partie de la population qui se retrouve sur la touche, quoi. C'est quand même quelque chose d'assez grave, tout ça.
Hein, François, comment est-ce qu'on en arrive là ?
Voilà.
Dis-nous donc, explique-nous donc le monde.
Oui, là, effectivement, j'ai l'impression que le sujet dépasse un petit peu ma compétence immédiate. Mais globalement, on peut parler de la réorganisation du travail, du système capitaliste. Je vais pas vous cacher ma méfiance à l'égard du système capitaliste, effectivement, qui est assez pourvoyeur de misère, ça se voit bien. Non, ce qui est très intéressant, et c'est le débat qui occupe depuis pas mal de temps maintenant les militants, les mouvements sociaux, les syndicalistes, c'est comment est-ce que la réorganisation du travail, la restructuration capitaliste et la réaction patronale, comment en est-on arrivé à un tel reflux des mobilisations ?
Uh-huh.
Et là, par exemple, précisément, quand on parlait de la démission, c'est-à-dire que maintenant, pouvoir toucher une allocation quand on a démissionné, paraît être un moindre mal, alors qu'à une époque, on aurait pensé de manière collective pour dénoncer les conditions de travail, les conditions de salaire, et rester dans l'usine jusqu'à voir l'occuper avec les rêves d'expropriation et d'autogestion. Donc comment est-ce qu'on est passé effectivement de cette conscience de classe à une telle individualisation ? Donc voilà, moi j'ai donné quelques réponses. Hein. Il y a eu une réorganisation, une restructuration capitaliste, hein, très claire. Donc là, je pense qu'il nous faudrait un peu plus de 10 minutes pour aborder dans le détail l'ensemble des éléments.
Il y a cette réflexion aussi à travers laquelle le travail ne serait plus aliénant aussi. C'est-à-dire qu'on a perdu complètement. C'est-à-dire qu'avec l'augmentation du chômage de masse, il y a une espèce d'idée où on se pose même plus la question en fait de qu'est-ce que c'est le travail. Ce qu'il faut, c'est qu'il en faut un. Et il en faut un dès le plus jeune âge. Il faut savoir un petit peu où est-ce qu'on veut aller et ensuite s'en donner les moyens et ensuite se battre pour l'avoir. C'est-à-dire que simplement même dire bah non, je veux pas. Enfin, le travail c'est aliénant les trois quarts du temps. Et d'ailleurs, je vais me battre et pour mes conditions de travail et pour discuter sur qu'est-ce que c'est même que le travail et qu'est-ce qu'on produit, etc. Tout ça, en fait, ça a plus ou moins disparu ou reflué, ou en tout cas reflué dans nos salons privés, quoi. C'est-à-dire qu'on s'en plaint tous chez nous, mais que globalement, publiquement, cette parole-là, elle a été beaucoup éteinte aussi. Et le reflux des mobilisations, on est obligé aussi de le mettre en lien avec l'augmentation du monde sécuritaire dans son ensemble. Mmh. C'est-à-dire que là, on voit qu'il y a des sanctions et que le Pôle emploi est de plus en plus répressif. Mais par ailleurs, c'est aussi l'ensemble de la société qui est de plus en plus répressive. Que soit, et c'est assez intéressant de voir comment est-ce qu'elle l'est, même quand c'est pas la police, hein. Mais c'est-à-dire qu'il y a augmentation au niveau de, objectivement, l'exécutif, donc le bras armé de l'État. Mais en fait, il y a répression et ça augmente à tous les niveaux. Et ça, c'est pour faire accepter le fait que par ailleurs, il y a aussi augmentation de la misère sociale. Et malheureusement pour nous, là pour l'instant, mais semblerait-il quand même, on y croit, hein, parce que les gilets jaunes, il s'est passé plein de choses, parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup de mouvements ces 5 dernières années, même des mouvements de grève très durs dans la sous-traitance reconductible, qu'on traite beaucoup par exemple dans cette émission. Mais il y a eu aussi toute une individualisation en fait aussi du monde, quoi. C'est-à-dire que les gens se disent qu'ils se sont pas donné les moyens ou que c'est leur responsabilité, et donc il y a une espèce de d'idéologie aussi qui est en train de rentrer dans la tête de tous et toutes, où on se dit tous, bon ben, le monde, il est dur, c'est la guerre, donc je vais me battre et j'aurai ma part de ce gâteau qui devient de plus en plus petit par ailleurs, même des fois un peu un goût de racisme, quoi. Il me semble que tous ces éléments-là, en fait, convergent vraiment très bien et qu'à travers l'explication même d'une réforme comme ça qui a l'air technique, en réalité, on peut le mettre en lien avec tout un tas d'autres secteurs et on arrive très très bien à voir comment est-ce que ça va influer sur nos quotidiens, en fait. Si on passe toute la journée à se demander comment est-ce qu'on va terminer la fin de mois, on fera ce qui a besoin d'être fait pour terminer la fin de mois.
C'est vrai que dans le passage du collectif à l'individuel, dans ce passage de l'émancipation à l'épanouissement ou dans ce passage de la révolution à la consommation, il y a énormément de choses à réinventer. Par contre, c'est vrai que face à une mise en échec, il me semble, hein, liée encore une fois à cette restructuration des mouvements sociaux, c'est vrai que, vous venez de le dire, il y a quand même pas mal de choses qui émergent. C'est-à-dire que, avec les Gilets jaunes, par exemple, du mouvement syndical, qui était en perte de vitesse, hein, mais depuis très longtemps. Je veux dire, maintenant, quand on fait 200 000 personnes, on croit en la révolution. Hein, faut quand même se rappeler que mai 68, qui a pourtant été un échec, hein, on était quand même
à
10 millions de personnes en grève et des usines occupées. Je veux dire, et la France occupée. Donc voilà, on est quand même loin du compte. Et c'est vrai que de la part des organisations syndicales, on a bien vu une forme de surprise, pour ne pas dire pire, à l'égard des Gilets jaunes, donc qui était cette partie de la population qui était considérée comme complètement dépolitisée et ralliée en fait à cette restructuration individualiste et consumériste. Or, on a pu constater qu'il n'en est rien, hein, et que toute cette partie de la population ne se reconnaissait tout simplement pas dans les partis et les syndicats qui avaient au final montré leur incompétence à faire front à la restructuration capitaliste. Donc effectivement, face au reflux des mobilisations, on peut surtout constater de la nécessité de restructurer la contestation et les différents mouvements entre les ZAD, les Gilets jaunes ou autres. On voit effectivement qu'il y a quand même pas mal de perspectives et beaucoup d'espoir.
Pour vous dire que ce qui vous attend, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est Les Rigors. Chaque semaine, sur l'école de Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, à Local, à Saint-Jean. Et bien évidemment, Radio Primitive sur Reims, où cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site auclibertaire.l'autre.net ou sur le blog Le Chat Noir 51. Okay.